Bonjour à vous toutes et vous tous, nous sommes le 27 janvier 2017 et c'est l'émission Le National qui commence, animée pour vous par Clotilde Seil. Vous savez qu'on fait le tour des émissions de la semaine présentées sur Canal M et ça nous permet de réécouter des segments qu'on trouve particulièrement savoureux et qui surtout concernent tout le monde d'Est en Ouest, tous les francophones au pays. Tiens, des livres pleins les oreilles du 26 janvier, cette émission que je connais bien. On peut dire que c'est la vie qui est rentrée dans le studio avec Kim Thuy dans le dernier roman « Vie est une petite merveille ». On va réécouter Kim Thuy et sa bonne humeur. Alors voilà, Kim Thuy. Kim Thuy, Kim Thuy, Kim Thuy. Je cherche encore Kim et en venant tout à l'heure, je cherchais encore quel était le mot et je ne l'ai toujours pas trouvé. Alors j'espère que vous allez en trouver un. Je cherche un mot qui définisse votre type d'écriture, qui est entre candeur et poésie, pour moi.
Oui.
Mais... Et je ne sais pas si Jacques a une idée, Linda, qui est une amie qui est là, Jean-Sébastien, mais l'écriture de Kim, parce que...
Je vous posais la question à la mauvaise personne. Je ne savais même pas que j'écris. Je ne sais toujours pas que j'écris, en fait, et je ne savais pas que j'écrivais. Je ne saurais pas qualifier mon écriture tout simplement par manque de connaissances. Pour pouvoir qualifier, il faut connaître en fait plusieurs styles, il faut connaître l'histoire de la littérature. Alors que je n'ai jamais étudié.
Oui, mais vous
en
lisez beaucoup.
Pas autant qu'on le croit, ou très peu en fait. Je suis capable de comprendre très peu de livres. Il y a un genre, je crois. Tout simplement. Et puis le reste, je ne comprends pas. Et quand je lis, je comprends vraiment juste par bout, par des petites phrases, mais pas tout le livre, pas l'ensemble.
Mais qu'est-ce que vous voulez dire? Parce que je veux dire, vous parlez un français absolument impeccable.
Non, j'ai plein de trous, mais vous ne voyez pas, parce que j'utilise juste les mots que je connais. Vous ne connaissez pas. Vous ne voyez pas les mots que je ne connais pas, en fait. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de trous dans mon mur, mais je cache bien.
Ah bah oui!
Sinon, je ne cache pas si bien. Je fais beaucoup, énormément d'erreurs. Et d'ailleurs, les dernières, c'était en Suède, où je devais utiliser le mot « honneur et mérite » en même temps. Et je ne savais pas si c'était au féminin ou au masculin. Et j'ai demandé, on m'a dit que tous les deux étaient masculins. Mm-hmm. Et j'ai dit, il y a une injustice, là. Il fallait quand même, chaise et table, les deux sont féminins. Alors que honneur et mérite, les deux sont masculins. Des choses très, 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 très simples. De base. Et je ne les ai pas. Toujours pas, d'ailleurs. D'ailleurs, il y a un journaliste français qui m'a interviewé en direct.
Oui.
Et je n'ai pas compris sa
question.
Non, parce qu'il était extrêmement éloquent. Et juste la musicalité de sa langue m'a hypnotisée et puis j'ai rien compris. Et donc, les deux seuls mots que j'ai retenus de sa question, c'était « hormis » et « en revanche ».
Ah oui.
Deux mots qui ne donnaient aucun indice et on était en direct.
Oui, « en revanche » au lieu de « par contre ». Vous savez que les gens, que les puristes, on ne devrait jamais dire « par contre », on devrait toujours dire « en revanche ».
C'est vrai?
Oui, c'est vrai.
Bon, alors,
non, on ne le fait pas.
Et « hormis », c'est joli.
«
Ce sont deux mots que je connaissais à la lecture depuis une vingtaine d'années, certainement, mais que je ne savais pas encore comment les utiliser. Et là, devant lui, il y avait deux mots.
Je vais faire très simple.
C'est vrai.
Je vais faire très simple. Alors, vous faites vivre cette vie, VI.
Oui.
Qui n'est pas vous, mais qui est très vous.
Oui. Tout est moi, et tout n'est pas moi.
Exactement. Bon. Oui. Et alors, vous savez, on dit toujours qu'un livre, c'est la première phrase qui donne envie de le poursuivre ou de le fermer. Et écoutez bien, la première phrase, je l'aime tellement, en page 9, « J'avais 8 ans quand la maison a été plongée dans le silence. »
Oui.
Ben là, je veux dire, on a tout de suite envie de savoir pourquoi, etc. Et on parlait du temps qui passe tantôt. Et là, vous êtes la petite fille qui montait sur une chaise pour aller enlever à chaque jour la page du jour, aller la déchirer. Et puis un jour, on ne déchire plus parce que la peur s'installe.
Oui, on essaie d'arrêter le temps.
Ne pas
voir le temps. Et vous voyez cette phrase, je la dois en fait à mon éditrice. parce qu'elle était en fait noyée au milieu du paragraphe et elle a sorti du paragraphe pour la mettre au tout début. Donc, c'est, ça prend cette distance. Je ne pourrais jamais écrire sans éditeur, sans réviseur, sans correcteur, parce que, justement, je n'ai pas cette perspective-là. Et puis, ça prend du temps.
Oui.
Ça prend quelqu'un qui est en dehors de notre propre ligne du temps pour pouvoir lire le texte sans le côté, je vous dirais, presque le côté technique. Hein. Quand on raconte une histoire, on essaie de voir quels éléments on garde, quels éléments on laisse tomber, parce qu'on ne peut jamais raconter la vie telle qu'elle est.
Mais non.
La vie est truquée, en fait, dans un livre. Ou sinon...
Quoique, on ne sait jamais quand même. Il y en a qui le font.
Oui, mais non, ça devient un verbatim que seuls les avocats peuvent lire. Hein. C'est très ennuyeux.
Oui, c'est vrai. Non, c'est vrai.
C'est incompréhensible, en fait. Quand on n'est pas avocat, c'est impossible de comprendre un verbatim, je crois. Oui, parce que le rythme normal, quand on est en conversation, il n'y a pas une suite aussi logique qu'on le croit.
Écoutez, c'est pas que j'ai pas de réponse, c'est que je suis en train de réfléchir à ce que vous dites.
Oui, c'est une suite différente, en fait. Parce que quand on parle dans une conversation, on ne parle pas juste avec des mots. On parle avec les gestes, on parle avec les yeux qui nous donnent des références complètement différentes. Et puis on part ailleurs. Et un verbatim qui ne note que les mots.
Oui, bien sûr.
Ne donne pas. Oui, alors
ça, ça n'est que le factuel, quoi, finalement.
Exactement. Alors que le livre, on explique.
Oui, c'est vrai.
Ouais, ce n'est plus seulement les mots.
Il y a une. Je voudrais commencer par la page 109.
Ah,
ça vous dérange pas,
je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a à la page 109.
À la page 109, il y a Vincent, quand il parlait de vous. Vincent, c'est cet homme dont vie a été très amoureuse et qui finalement a été porté disparu, dont on n'a plus jamais entendu parler.
Oui.
Et là, donc, l'auteur de vie, Kim Thuy, écrit « Il m'a comparé aux rares fleurs Udumbara, dont les bouddhistes disaient qu'elles n'apparaissaient qu'une fois tous les 3000 ans. » Alors qu'elles se cachaient en fait par centaines sous la peau de leurs fruits. Je trouve que vous êtes exactement ça. C'est pour ça qu'on vous aime tant au Québec ici. Non, mais c'est vrai, c'est comme une fleur rare, tout d'un coup comme ça, qui sort
pousse.
Du...
Oui. Ah oui, qui pousse sur même les clôtures, hein, cette fleur, qui se retrouve un peu partout, mais elle ne sort du dessous des pelures de ce fruit-là, que, voilà, de temps en temps, on ne sait jamais quand est-ce qu'elle sort et puis où est-ce qu'elle se trouve.
Eh bien là, aujourd'hui, elle est là dans le studio avec Kim Thuy. Alors, il y a toute une galerie de personnages formidables. Dans Vie, le grand-père, la grand-mère.
Ouais.
A aussi. H-A. Hein,
oui. Au départ, je voulais qu'elle soit juste sur une page, était juste un personnage de passage.
Non, c'est pas possible.
Comme ça, et puis elle est revenue par elle-même. Oui. Je ne pensais pas du tout qu'elle allait prendre une place aussi importante. En fait, elle est devenue la deuxième mère de vie.
Et c'est l'amie, d'ailleurs, de la maman,
oui.
Disons de la vôtre, et elles n'ont rien en commun.
Exactement.
Autant l'une est très... très, très nuancée, très, très...
conservatrice,
etc. Ouais. Autant A, on l'imagine comme une femme complètement délurée, qui
tout
se maquille, qui s'habille, qui...
Je voulais faire l'opposition entre les deux époques au Vietnam. Ouais. L'époque des Français, où on mise plutôt sur l'élégance. Et encore là, avec la vieille France, il y avait un point en commun avec le Vietnam, c'est-à-dire la culture de retenue. Et puis, les Américains sont arrivés dans les années 60. Et là, c'était l'éclatement.
Exactement.
C'était aussi une époque, hein, pas seulement la culture américaine, mais l'époque du rock'n'roll.
Oui,
et,
mais vous savez que c'est un petit peu ce que les Français ont vécu à la fin de la Seconde Guerre mondiale.
Mm-hmm.
Et c'est à ce moment-là, d'ailleurs, qu'ils se sont anglicisés beaucoup.
Oui.
C'est lorsque les chewing-gums et les palmales, comme disent les Français, qui étaient les cigarettes américaines. Non, mais c'est vrai. Et c'est à ce moment-là, finalement, aussi que les femmes les gens se sont mis à danser.
Il y a eu 1968, déjà.
Après. Mais c'est vraiment... Bon, alors voyez-vous, je nous ai trouvé un point commun. Mais je voudrais revenir à A.
Oui.
Parce que, bon, il n'y a pas que des choses jolies dans votre livre. Je veux dire, il y a aussi des choses terriblement difficiles à vivre, mais Dans le livre, comme d'ailleurs, comme vous êtes dans la vie qui me tue, vous en parlez encore presque avec le sourire. Parce que même quand vous êtes mélancolique, hein, vous l'avez dit d'ailleurs dans un papier, dans une entrevue, dans Le Devoir, vous avez toujours le sourire. Et A, là, ce qu'elle subit entre autres sur les Boat People, hein, on ne s'en rend pas compte, nous.
C'est presque inimaginable, en fait.
Et c'est inhumain.
Mais
c'est...
le viol a toujours été utilisé comme arme de guerre.
Ouais.
Et en fait, arme de domination. Mmh. Donc, quand vous êtes un groupe de pirates de 6 ou de 10 personnes, 10 hommes qui arrivent sur un bateau de 20, 50, 100, 200 personnes, pour pouvoir dominer un grand groupe, vous utilisez l'arme la plus efficace, soit le viol. Et je vous dirais, presque tous les bateaux qui ont rencontré des pirates ont traversé cette... j'allais dire ont vécu cette expérience. Et nous, évidemment, moi, personnellement, j'ai eu la chance de traverser sans rencontrer de bateau pirate. Mais j'ai un oncle qui a traversé un peu plus tard. Son bateau a rencontré à 7 reprises des pirates. Donc, vous imaginez les femmes.
Oh là là.
Le vol, oui, c'est terrible, mais ce n'est rien en comparaison avec le viol. Et surtout, dans ce cas-ci, c'était des viols collectifs. Et il fallait faire peur aux gens. Et les femmes sont toujours utilisées. D'ailleurs, on le voit encore dans toutes les guerres. Aujourd'hui, à notre époque, en Afrique,
absolument,
ailleurs,
ailleurs et partout en ce moment dans le monde, on le voit avec... Voilà. Allez, parlons d'arômes, parlons de parfums. Hein, parce que vous savez que le temps... Non, je ne peux pas croire qu'il ne reste que 3 minutes, c'est pas possible. Non, c'est pas possible,
Mais il faut dire que on a le choix, hein, après avoir vécu des expériences... Oui. Très noir, soit on peut choisir de se laisser tomber, sinon de revenir.
Ouais.
Et je crois que Ha a eu...
Elle a choisi la résilience, oui.
Et je l'ai... Ha est le symbole, en fait, de toutes ces femmes que j'ai eu la chance de rencontrer, qui s'en sont sorties, en fait, qui ont réussi à se relever. Et je vous dirais, la plupart des Vietnamiennes se sont relevées. Au Vietnam comme à l'extérieur du pays.
Mais c'est pour ça que ça me semblait important qu'on en parle, parce que moi, c'est un personnage qui m'a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup touchée dans ce livre-là.
Oui, elle est importante en ce sens-là.
C'est formidable parce qu'on apprend plein de choses. Par exemple, le rituel du café. Alors ça, j'ai trouvé ça vraiment épatant. T'sais, on parle toujours du rituel du thé au Japon, mais le rituel du café au Vietnam, mais c'est génial avec la glace.
Oui, mais c'est parce que les Vietnamiens ne sont pas très bons avec le thé. Leurs thés sont assez primaires encore, je vous dirais. Mais le café, on l'a reçu. En fait, c'est la culture française.
Oui.
Mais évidemment, si vous êtes au Vietnam, on dit qu'on vietnamise tout. C'est devenu un verbe,
d'accord.
Vous voyez.
Ah oui, d'accord.
Donc, comme le pain baguette, une fois arrivé au Vietnam, on vietnamise. Donc, on met la sauce de poisson, on met les saucissons vietnamiens à l'intérieur. Ou sinon, si on utilise le pâté à la française, ben on ajoute la coriandre.
Ah ben oui.
Donc, et donc, le café... Bon, les plantations et tout ça ont été commencées, je crois, par les Français. Au tout début, vous voyez, les Vietnamiens qui travaillaient dans les plantations étaient appelés des coolies.
Oui.
Et le coolie n'avait pas le droit de boire le café. Et c'est comme ça qu'ils ont trouvé des graines de café rejetées par les civettes.
Voilà, le fameux café de civette qui coûte une fortune maintenant, qui est bu encore par certains, mais alors, certains élus.
Il fallait les trouver dans les excréments.
Dans les excréments.
Voilà.
Parce que la civette, elle ne mangeait que l'enveloppe.
Oui, le fruit
et le
pépin, le noyau, je ne sais pas comment on appelle ça, est rejeté entier.
Vous savez quoi? Et il ne nous reste plus que 30 secondes. Mais vous savez ce qu'on va faire?
Oui.
Si vous le voulez bien.
Mm-hmm.
Si le parcomet ne crie pas, je vous garde encore pour un petit 3 ou 4 minutes, juste après la fin de la musique. Ça vous va pour la seconde partie?
Mais oui.
Merci beaucoup. Nous sommes en compagnie de Kim Thuy, mesdames et messieurs, si par hasard vous ne l'aviez pas reconnu. Et c'est Clotilde Say qui vous présente sur Canal M des livres pleins les oreilles. On va garder Kim, encore quelques minutes avec nous. Alors, nous l'avons gardé encore quelques minutes de plus parce qu'on ne se peut plus ici en studio. On l'aime tellement. Et c'est vrai qu'en plus, j'avais prévu
parce qu'il y a plein de choses qui m'ont amusée dans ce livre et j'avais prévu qu'on en parle. Comme par exemple, la bulle. Hein? Oui. Vous savez, là, quand on dit « Oh là là, elle rentre dans ma bulle », et puis vous, quand vous êtes arrivée, ce n'était pas la même connotation du tout. Qu'est-ce qu'on appelle une bulle au Vietnam?
Mais non, mais on ne connaît pas cette expression d'être dans la bulle
carrément
de l'autre.
Pas.
Parce que de un, on n'a pas le droit à une bulle. Il n'y a pas de place pour avoir une bulle. Alors, arriver ici et que les gens nous disent qu'il y a une limite ou il y a un périmètre qui soit personnel, c'était un concept très étranger. Vous voyez, quand vous n'avez pas ce concept-là, mais vous ne pouvez pas interpréter. Et donc, moi, je pensais que l'autre personne est en train de dire « Ah, mais tu me comprends. T'es dans ma bulle. Donc, t'es dans ma tête. » Alors, je dis « Ah, ben, quel plaisir. Ben oui, merci. » Au lieu de reculer, j'avançais.
Alors, autre chose d'adorable, le baiser.
Ben oui.
Alors, le baiser, parce que le baiser tel que nous le connaissons ici...
Le French kiss.
Le French kiss, ça n'existe pas.
De un, il n'y a pas de traduction en français pour le French kiss. Vous saviez ça? C'est fou, hein, quand même.
Oui, c'est vrai.
Parce qu'on pense que les Français le font mieux que nous, mais peut-être pas.
Oui, on sait qu'ils sont plus doués avec la langue. Non, mais sérieusement.
Les Vietnamiens, il y a une certaine pudeur.
Oui.
Donc, vous ne voyez jamais déjà, même juste la bise n'existe pas.
Ah non?
Non, on ne se touche pas. Hein. Et je me souviens, on rigole encore, ma tante, quand son mari lui a fait la cour, et le moment où elle a accepté, en fait, sa façon de dire qu'elle a accepté, c'est qu'il lui a touché le petit doigt. Et donc, encore aujourd'hui, mon père, il passe à côté et puis il touche le petit doigt pour dire « Oh, ça, c'était le geste osé oh. ». Et donc, physiquement, il n'y avait pas ce langage. En fait, il n'y a pas de langage corporel. Vous voyez, tout est tellement retenu.
Oui.
Et quand on regarde les peintures japonaises ou chinoises, les anciennes peintures, on voit bien que la bouche des femmes était représentée par un petit point rouge.
Oui.
Parce que la force était dans la retenue, dans la réserve, et non pas dans l'expression. Alors qu'en Occident, c'est tout le contraire. Une personne qui est forte, une personne qui est présente, intelligente, c'est quelqu'un qui s'exprime. Alors que dans la culture asiatique, c'est quelqu'un qui sait se retenir, qui est capable de cacher ses émotions. Parce que si vous montrez vos émotions, vous montrez vos faiblesses, et puis l'autre a de la munition contre vous.
Mm-hmm.
Alors c'est exactement où vous attaquez. Donc la force était le contraire.
Et on finira avec les arômes. Parce qu'il y en a partout, il y en a partout dans votre livre. D'abord, je voudrais dire, préciser pour les gens qui nous écoutent, que ce sont des courts chapitres, exactement comme pour Rue, par exemple.
Ben oui, parce que je suis encore petite, je n'ai pas grandi. Vous voyez, ça reste exactement la même taille.
Les arômes. Pendant le trajet de Saïgon jusqu'à l'eau, j'ai gardé mon visage collé sur sa blouse, vous parlez de la blouse de votre maman, encore imprégnée du parfum de la mélisse citronnelle qui refusait de céder la place à celui de la coriandre. Ce mélange de parfums dans l'autobus m'a endormie, m'évitant de sentir les gouttes de sang du poisson que la passagère debout à côté de nous transportait dans un sac qui coulait parfois sur moi lors des virages à gauche.
Mais vous voyez l'image dans ces autobus bondés.
Mais oui.
Mais
ce ne sont que des images chez vous, Kim Thuy. C'est ça qui nous touche terriblement.
Mais je fais juste décrire la réalité. Hein. La vie est riche comme ça. Et puis les arômes, la cuisine vietnamienne, vous voyez, n'est pas une cuisine épicée. C'est une cuisine aromatique. Donc, elle est vraiment, elle utilise énormément d'herbes fraîches.
Oui, séchées.
Et du coup, tout est parfumé et non pas épicé. Je ne pouvais pas passer à côté, j'ai été élevée là-dedans, alors je pense que je sens tout le temps. Et je crois que je ne savais pas que j'ai un nez fin, mais apparemment que...
Ah oui?
Oui, je sens tout. Et c'est un... Je ne sais pas si c'est un privilège ou... a curse, comme on dit en anglais, parce que dès que je rentre dans une pièce, surtout la bière qui a coulé la nuit avant.
Le houblon, tout ça, oui.
Lendemain,
ça marche
c'est
pas,
vraiment...
Ça.
Bon, alors mon fils ne peut pas cacher qu'il a bu de la bière.
Ah oui, OK.
Cher Kim, Kim Thuy, là c'est vraiment tout le temps que nous avons, mais je suis tellement heureuse que vous nous ayez donné quelques minutes de plus de votre temps. C'est l'heure d'une part de nous dire au revoir, donc je voudrais remercier au nom de tous les auditeurs.
Revenir.
D'accord, n'importe quand. Alors à votre plume, voilà, faut en écrire un autre très vite.
Ben non, mais je peux revenir sans écrire.
D'accord. Ah ben si vous voulez. Vous pourriez faire une petite chronique.
Oui,
d'accord.
J'adorerais.
D'accord, attention, parce que ça ne va pas tomber dans l'oreille d'une sourde. Et puis donc, je voudrais vous remercier encore une fois beaucoup. Et puis, je voudrais vous proposer maintenant, ce n'est pas parce que vous êtes là, c'est comme ça à toutes les émissions, je me fais un plaisir et un devoir de lire un extrait du livre dont nous avons parlé, en l'occurrence de Vie, V-I, de Kim Thuy, que je remercie encore. Merci, Kim.
Merci, merci de donner la voix au mot.
On a toujours beaucoup de questions à poser à notre pharmacien et bien souvent, il est capable d'y répondre. Alors, il y en a un pharmacien qui s'appelle Alexandre Chagnon, qui a eu une excellente idée. Il a décidé de créer le site « Questions pour un pharmacien ». Il en parle à Marianne Paquette dans le cadre de l'émission « C'est bon pour la santé ».
Selon le CRTC, en 2016, plus de 90 % des Canadiens ont consulté Internet pour des renseignements médicaux. Vous l'aurez compris, pour le meilleur et pour le pire. Et pour tenter de contrer le pire, Alexandre Chagnon, pharmacien, a mis en place une plateforme web « Questions pour un pharmacien » afin de trouver du contenu un petit peu plus solide en matière de santé. On le joint à l'instant, Alexandre Chagnon. Bonjour.
Bonjour.
Question pour un pharmacien.com, c'est votre idée. C'est venu de quel constat, Alexandre?
En fait, l'idée m'est venue, et en fait, l'intérêt que je porte pour le phénomène de la consultation d'Internet par les patients m'est arrivé en fin de parcours universitaire, là, pendant un stage. Une jeune patiente se présente en pharmacie et demande de parler au pharmacien. En cours de conseil, le pharmacien, on se rend compte que la patiente est allée voir sur Internet quelques jours auparavant et avait trouvé l'information que lorsqu'elle consomme de l'alcool, elle ne doit pas allaiter pendant 3 jours. Et là, elle se présente en pharmacie. Oui, vraiment. Donc, un peu au dépourvu, comprend pas trop ce qui se passe, n'est plus capable d'allaiter son bébé, un bébé naissant là, de quelques semaines. Et donc, le pharmacien fait des pieds et des mains cette journée-là, appelle un médecin, appelle une infirmière pour structurer de l'aide pour la patiente. Et malheureusement, quelques jours plus tard, on doit en venir à la conclusion que l'allaitement pour elle, c'est terminé. Donc, c'est un petit peu... c'est une triste histoire et en fait une histoire aussi qui, pour moi, était assez frustrante parce qu'on s'entend que j'étais en fin de cursus universitaire. Ça faisait 4 ans que j'étais à l'université. On me formait pour intervenir dans une situation comme ça. Et là, on est intervenu un peu trop tard. Donc, je suis arrivé chez moi cette journée-là. J'ai commencé à lire sur le sujet pour me rendre compte exactement de la statistique que vous avez dit en début d'entrevue. Donc, c'est un phénomène qui est extrêmement répandu. Et tout le monde est conscient de ce phénomène-là, que ce soit l'Ordre des pharmaciens, le Collège des médecins, tout pharmacien, tout professionnel de la santé est en mesure de vous donner une petite histoire, là, une histoire comique ou une histoire qui l'est peut-être un petit peu moins, de patients ayant apporté une information trouvée sur Internet. Et donc, c'est à ce moment-là que j'ai décidé de prendre les choses en main et parce qu'il n'y avait rien qui se faisait au niveau des professionnels de la santé sur Internet à ce moment-là, de créer une page, là, d'abord qui est une page Facebook et de voir si les patients allaient l'utiliser, ce qui était le cas.
Oui. Maintenant, question pour un pharmacien. C'est une plateforme web, un site web. Les internautes peuvent y aller pour poser différentes questions. Il y a un pharmacien qui répond en l'intérieur de 24 heures. C'est une façon aussi de créer cette proximité entre le pharmacien et le grand public. Quelles sont les questions peut-être un petit peu plus récurrentes qui reviennent sur votre plateforme, Alexandre Chagnon?
En fait, les questions sont vraiment de tout ordre. On répond à des questions vraiment de tout sujet. Ce qu'on se rend compte, c'est que la santé de la mère et du jeune enfant, c'est des questions qui sont récurrentes parce que les jeunes mères cherchent beaucoup sur Internet. Des questions en oncologie aussi, parce que les patients qui sont en traitement de cancer souvent sont à la recherche d'informations, veulent guérir. Et de façon inévitable, Internet étant ce qu'il est, on est en mesure de savoir beaucoup de questions questions un peu gênantes, là. Donc, la première question qu'on avait reçue à l'époque sur la page Facebook, c'était une jeune dame qui voulait savoir si, effectivement, il y avait un produit qui existait pour augmenter la taille des seins. Donc, oui. C'était une question, en fait, qui était super pertinente parce qu'il y avait un produit sur Internet qui se vantait de faire cet effet-là. Donc, c'est un peu les questions qu'on reçoit. On reçoit de tout ordre et environ une à deux questions à tous les jours reçues sur le site en ce moment.
Il y a 70 pharmaciens qui collaborent avec vous sur ce site de façon bénévole pour répondre aux questions du grand public, pour tenter de contrer la désinformation. Alexandre Chagnon, est-ce que les questions restent confidentielles? Comment ça fonctionne sur le site Web?
En fait, c'est très simple. On parlait de proximité tout à l'heure. C'est exactement ce que ça fait. Le site envoie un pharmacien près du lieu de résidence du patient la question et il y a un échange là, qui est fait un peu comme la technologie SMS, donc des messages textes, des envois qui sont faits part et d'autre entre le patient et le pharmacien. Et une fois l'échange terminé, la discussion, si elle ne comporte pas d'éléments qui peuvent porter atteinte à la confidentialité du patient, la conversation, elle est mise à la disposition du public là, sur Internet pour que d'autres patients aux prises avec les mêmes problèmes là, puissent recevoir là, l'information. C'est ce qui est bien avec Internet.
Oui. Écoutez, on trouve que c'est une initiative formidable ici, Alexandre Chagnon. 70 pharmaciens déjà qui collaborent avec vous. Est-ce que vous tentez de faire un appel aux pharmaciens pour qu'ils joignent questionspourunpharmacien.com?
Bien sûr. En fait, l'initiative, initialement, c'était que moi qui répondais à toutes les questions. Tranquillement, pas vite, j'ai des collègues que je ne connaissais pas d'un peu partout au Québec qui ont trouvé l'initiative comme vous très intéressante d'aider le public. Donc, tranquillement, pas vite, le chiffre a grossi. Au moment où on se parle aujourd'hui, on est 100 pharmaciens, donc ça va quand même bien là, la progression, mais c'est certain là, qu'on prendrait d'autres collègues là, dès aujourd'hui, si on était capable d'être 250, mais peut-être qu'on pourrait aider encore plus de patients parce que des entrevues comme celles que je suis en train de faire en ce moment, c'est la première fois que j'en réalise une, justement pour éviter de sortir publiquement et de faire en sorte que l'initiative soit trop populaire d'un coup, que les 100 pharmaciens reçoivent 10 questions la même journée, ce qui serait assez malheureux parce que les pharmaciens, c'est pas ça qu'ils veulent, en fait. C'est bénévole, effectivement. Là.
Rapidement, il nous reste peu de temps, Alexandre Chagnon, avec le pharmacien qui a pris la place aussi publique dans les dernières années et maintenant votre initiative. Avez-vous l'impression que les pharmaciens, vos collègues, ont besoin de prendre cette place-là auprès de la population québécoise?
Je crois que oui. En fait, notre position, elle est enviable, je crois, au niveau de la population parce qu'on est les professionnels de la santé qui, encore aujourd'hui, sont les plus accessibles. On est très appréciés de la population aussi. Je crois que le seul...
Se poursuivre.
Oui, exactement. Et le seul endroit où on n'était pas encore impliqué, ça serait sur Internet.
Merci, Alexandre Chagnon, pour un questionspourunpharmacien.com. Ça a été un plaisir de vous parler.
Sympathique comme idée, hein? Restez des nôtres. Il y en aura peut-être d'autres en seconde partie, des idées. Et c'est la deuxième partie de l'émission Le National qui commence, toujours animée pour vous par Clotilde Seil sur les ondes de Canal M. Étiez-vous à l'écoute le 24 janvier dernier pour entendre Benoît Racette au micro de l'émission Accès libre? Eh bien, si vous n'y étiez pas, on a quelque chose de fort intéressant à vous faire entendre ou réentendre. C'est le chroniqueur Franck Bouchard qui nous explique toutes les étapes de l'accommodement raisonnable au travail pour les personnes qui vivent en situation de handicap.
Un handicap peut survenir dans la vie. On peut avoir une maladie dégénérative qui se déclare quand on est bien en selle, dans un emploi confortable. Ou encore, on peut voir notre vision faiblir jusqu'à changer complètement nos capacités. Mais qu'est-ce qui vient ensuite? L'obligation d'accommodement raisonnable au travail. Et pour expliquer comment ça se passe, notre chroniqueur Monde du travail, Franck Bouchard, est avec nous. Bonjour, Franck.
Bonjour.
Merci de nous expliquer ça, donc. D'entrée de jeu, que doit faire un employé ou une employée qui a besoin d'un accommodement raisonnable au travail?
Alors, écoutez, ce que doit faire l'employé, c'est d'abord, évidemment, s'adresser à son employeur parce que l'employeur, lui, a une obligation. Une obligation qui découle de la charte de la charte des droits et libertés de la personne. Le motif handicap est un motif de discrimination. Et dans ce contexte-là, il doit y avoir une mise en place d'accommodements raisonnables lorsqu'effectivement, il y a une situation qui se passe. Donc, vous le disiez, maladie, accident, etc. Besoin, l'emploi que la personne faisait, elle est peut-être plus en mesure de le faire l'ensemble des tâches ou une partie des tâches seulement. Donc, il doit y avoir à ce moment-là, l'employeur doit avoir à ce moment-là l'obligation de regarder avec la personne, d'abord, comment on pourrait adapter son poste, revoir son poste, adapter les différentes fonctions de son travail. Est-ce que c'est une adaptation physique que ça prend ou est-ce que c'est d'autres types d'adaptations? Donc, c'est sûr qu'il y a une obligation.
Avant qu'on entre dans le détail, donc, on sent bien, là, il faut s'adresser à son employeur puis ouvrir le dialogue. Mais c'est quoi les étapes là, qu'on doit vivre pour y arriver?
Pour y arriver, ben, écoutez, je dirais que d'abord, c'est de s'adresser, ça dépend évidemment du type d'employeur qu'on a. Si c'est une grande organisation, par exemple, il y a souvent des services de ressources humaines qui sont là, et c'est évident qu'on va d'abord s'adresser à ces personnes-là. Il peut aussi avoir la présence d'un syndicat, de se faire accompagner effectivement par son syndicat, c'est quelque chose qui peut être tout à fait pertinent. Ils ont aussi, les syndicats, une obligation d'accompagnement de la personne. Ils ne peuvent pas dire non, on ne va pas t'aider. Ils ont une obligation aussi bien à cet égard-là aussi d'accompagner le travailleur dans sa recherche d'accompagnement.
Il y a certains syndicats qui ont des ressources à l'interne, mais ce n'est pas pareil partout. Je pense à la FTQ qui ont travaillé un ensemble sur l'handicap ou la CSN qui ont des choses, mais des fois, les petits syndicats connaissent moins la situation.
Là. Effectivement, et peut-être, je devance peut-être un peu les ressources qu'on pourrait trouver, mais j'en parlerai tantôt parce que les syndicats, peuvent, même s'ils n'ont pas effectivement les ressources à l'interne, peuvent trouver des ressources à l'externe. J'en parlais tout à l'heure. Donc, c'est de s'adresser à ces personnes-là. Ça, quand c'est une petite organisation, bien, écoutez, c'est de s'adresser au patron, la patronne, évidemment, au propriétaire pour voir, écoutez, j'ai une situation. Je pense qu'il faut l'ouvrir ouvertement, même si ça peut être pas toujours évident. Par exemple, si c'est un cas de santé mentale, bon, la personne a vécu une problématique, vit une problématique, peut-être a besoin d'horaires allégés, de revoir son travail parce que, donne un exemple, difficulté à gérer le stress, peut-être. Si l'emploi peut être anxiogène d'une certaine manière, comment on peut travailler là-dessus? Ça peut être plus délicat. C'est sûr que c'est pas tout le temps évident de s'ouvrir comme ça à son employeur. Ouais. Il peut y avoir la crainte de perdre son emploi, mais encore là, l'employeur peut pas se défiler, dire, ben non, je peux pas t'en donner, ou il faut regarder, il faut qu'il regarde si, jusqu'à quel point il peut mettre en place des accommodements raisonnables, toujours, évidemment. Il faut voir jusqu'à quel point ça empêche de faire le travail, jusqu'à quel point ça a des répercussions sur les autres employés, les autres travailleurs, etc. Mais l'employeur ne peut pas dire non, je ne peux pas rien faire. Il doit regarder avec la personne, parce que je pense que la personne en partant, c'est un peu le premier expert, si j'ose dire, de comprendre sa situation et qu'est-ce que ça lui prend pour mieux, pour être en mesure de continuer à faire son travail. Donc, c'est avec la personne. Il peut, par la suite, l'employeur peut évidemment s'adresser à des ressources externes pour essayer d'aller chercher de l'aide, que ce soit, par exemple, un service spécialisé de main-d'œuvre ou un centre de réadaptation, tout dépendant évidemment de la nature un peu des adaptations à mettre en place.
OK. Donc, on est presque rendu là, avant de parler des employeurs eux-mêmes, s'ils sont faciles ou pas, mais quelles ressources on peut avoir quand ça va bien, les situations qu'on dépeint, mais aussi quand ça va mal?
Quand ça va mal, quand ça va bien, je pense qu'effectivement, on peut s'adresser, même quand ça va bien ou que ça va mal, on peut peut-être s'adresser d'abord à la Commission des droits de la personne, de la jeunesse, qui a mis en place un service pour accompagner les employeurs, mais aussi les syndicats. Je parlais tantôt des plus petits syndicats qui auraient peut-être des besoins qui savent pas nécessairement comment aborder cette situation-là, peuvent s'adresser à la Commission des droits de la personne, donc parce qu'il y a un service d'accompagnement, justement, pour mieux comprendre les accommodements raisonnables, comment les mettre en place, à quelles ressources, où aller chercher ces ressources-là, comment ça fonctionne. Donc, c'est sûr que ça peut être une première porte, je pense, à aller cogner à la commission, à téléphoner aux gens qui s'occupent de ça, de ce service-là. On peut s'adresser, évidemment, aussi aux services spécialisés de main-d'œuvre qui ont le mandat d'accompagner... On pense souvent qu'ils ont un mandat d'accompagner les gens en recherche d'emploi et les aider à s'intégrer dans un emploi, mais ils ont aussi un rôle d'aider les personnes en emploi qui peuvent effectivement vivre une situation d'handicap créée par la maladie, etc.,
mais même les pour être maintenu en emploi.
Pour être maintenu en emploi,
parce que ça évolue, toute la vie, notre corps évolue, nos capacités évoluent. Il ne faut pas penser qu'on est d'un côté les accommodés, puis de l'autre ceux qui ne peuvent pas. Là.
Effectivement. Ces ressources-là sont là pour aider l'employeur et la personne aussi à cerner le besoin d'accommodement, jusqu'à quel point c'est possible de les mettre de la mettre en place et trouver les moyens financiers lorsqu'il y a des besoins, lorsqu'il y a des coûts associés à ça. C'est quoi les ressources financières auxquelles auxquelles s'adresser.
Oui, parce qu'il y en a des possibles. Franck Bouchard, on va mettre évidemment sur la page de notre émission plusieurs ressources pour accompagner, au-delà de votre chronique, les gens. Mais est-ce que les employeurs sont faciles à travailler avec l'accommodement raisonnable? Comment vous trouvez ça, là, votre appréciation générale?
D'après mon expérience, c'est difficile de se positionner si c'est facile ou pas facile. C'est difficile de trancher, là.
Ouais.
Je dirais que de plus en plus, les employeurs sont conscients de ces obligations-là. Mm-hmm. C'est sûr que dans des plus grandes entreprises, des fois, les gens qui sont là, qui travaillent au niveau des ressources humaines, sont plus familiers, plus sensibilisés, plus formés par rapport à ces obligations-là légales qu'elles ont. Donc, c'est sûr qu'il peut y avoir une ouverture. Dans les plus petites entreprises, des fois aussi, il y a une très bonne ouverture aussi parce qu'il y a une proximité qui s'est dégagée avec l'employeur.
C'est facile d'avoir accès au patron.
Il y a une bonne proximité. Mais c'est certain que c'est à géométrie variable, comme dans n'importe quoi. Des employeurs, d'abord et avant tout, cherchent des employés qui vont être performants, qui vont faire l'emploi, Donc, ça dépend un peu de leur degré de sensibilité par rapport à ça. Mais au-delà de la sensibilité, ils ont quand même une obligation. Donc, si l'employeur est réticent à mettre en place des choses, il y a un risque pour lui d'être poursuivi. Là, parce que c'est une obligation, on regarde la Charte des droits. Donc, il peut être poursuivi parce qu'il a commis une discrimination. Mm-hmm. Donc, faut toujours être prudent là-dessus. Donc, je dis que oui, les employeurs sont généralement assez ouverts. Soyons optimistes. Quand on a une situation, je pense que ça peut être possible de régler la situation dans la mesure du possible.
Merci, Franck Bouchard, de nous avoir présenté l'optimisme en plusieurs étapes. Merci, Franck Bouchard.
Merci bien.
Voilà, c'était la chronique emploi de l'ami Franck Bouchard qui participe assez régulièrement à l'émission Accès libre, animée pour vous par Benoît Racette. Canalem, on est, je pense, assez fort pour vous raconter des belles histoires. Et des belles histoires à l'émission Portrait de famille, animée par Marianne Paquette. Il y en a beaucoup, régulièrement, je vous dirai. Celle-ci, cette belle histoire, c'est celle de la famille Blanchette. On vous propose maintenant d'entendre ou de réentendre le portrait de famille d'Yves Blanchette. Un papa de 7 enfants, dont Fanny, elle a 30 ans, et Jérôme, 16 ans. Tous les deux sourds de naissance. Alors, comment ça se passe dans cette famille-là? On écoute.
Aujourd'hui, c'est le portrait de famille d'Yves Blanchette qui est, ma foi, pas banal, hein, je vous le disais, assez costaud parce que Yves a 7 enfants. Âgé de 30 à 16 ans, 3 filles, 4 garçons, il est grand-papa 5 fois. Donc, assez occupé, assez sollicité, on peut le comprendre assez rapidement. Tout ça, en plus d'être intervenant communautaire, président du CA de l'AQEPA, fondateur d'une école qui s'appelle Communicasign. Et on s'est inspiré, comme à l'habitude, de sa réalité familiale, de son vécu, ses expériences pour bâtir l'émission. Vous pouvez facilement saisir qu'on n'a pas manqué de sujet et pas manqué d'inspiration. Merci d'être là, Trois-Rivières. Vous avez fait la route avec beaucoup de générosité.
Tout à fait.
On apprécie.
En vous écoutant, d'ailleurs.
En plus.
C'est ça.
On est chanceux. Je le répète, vous êtes un homme occupé, Yves Blanchette, intervenant social, président du CA de l'AQEPA, fondateur d'une école, l'école Communicasign, en plus d'avoir 7 enfants. Atypique, surtout parce que, et vous aimez le préciser, vous vous êtes fait souvent poser les questions, Il n'y a pas de jumeaux là-dedans.
Non.
Vous ne faites pas partie d'une religion. Et ils ont tous la même mère.
Tous la même mère. Alors, c'est une question qui est commune. 7 enfants en 2016, ou 2017 aujourd'hui.
Oui.
Comment ça se fait? Ben, ça se fait un à la fois.
Et ce qui est d'étonnant, Yves, c'est que lorsque vous avez rencontré votre femme, Linda, elle vous a dit quelque chose qui ne prédestinait pas du tout à ce type de famille.
Ben écoute, là, quand je l'ai demandé en mariage, elle m'a dit « si tu veux avoir des enfants, tu choisis.
» Ce qu'il y a aussi de particulier dans votre famille, Yves, c'est que vous avez deux enfants sourds de naissance, ouais. Surdité profonde. Ouais. L'aîné, Fanny, oui. 30 ans, et le bébé, Jérôme, 16 ans.
Tout à fait.
Il y a à peu près 15 ans entre eux. On parlera de ce que ça a amené comme peut-être spécificité dans le traitement, dans le suivi. Mais avant, je veux que vous nous présentiez votre portrait de famille, c'est-à-dire oui. votre belle photo, celle qui circule sur nos médias sociaux des gens en ce moment. J'ai compté, Yves, il y a 18 personnes sur cette
fait.
Photo-là.
Et il en manquait une et c'est tous ma famille. C'est toute la ligne directe. C'est mes enfants, les conjoints et mes petits-enfants. Pourquoi cette photo? C'est simple, c'est la seule qu'on a pu avoir où tous les membres de la famille étaient présents.
C'est et la plus récente. Un beau moment.
C'est le mariage de ma fille Paul, l'enfant du centre. Hein, c'est la quatrième, donc c'est son mariage. Donc tout le monde était bien heureux de se retrouver dans un beau lieu à Drummondville pour fêter sa noce finalement. Puis moment idéal aussi pour prendre une photo de tous mes enfants. Même à Noël, on n'arrive pas à les avoir tous ensemble, etc. Et petit secret de famille. Vous savez qu'on est content de l'avoir parce que pour une fois, les conjoints n'ont pas changé encore.
Ah, ben oui.
C'est sûr. Conjoint, conjointe. Mais il faut le dire, hein, une grande famille inclut beaucoup de bruit puis de gendre aussi.
Yves, bien sûr, vous êtes ici parce que vous avez des enfants différents.
Tout à fait.
Avec des besoins particuliers. Fanny, l'aîné, Jérôme, le bébé. Et ce qui est intéressant dans votre parcours familial, c'est ça, c'est qu'ils ont 15 ans, 16 ans de différence, là. Et ça s'est passé dans le diagnostic de façon très différente. Lorsque Fanny est arrivée à sa naissance, ça a pris du temps avant de détecter.
Oui, tout à fait. On est des nouveaux parents. Hein? On n'a aucune expérience et puis on n'a aucun lien avec la surdité. On ne connaît absolument pas ça. Et vous savez qu'un enfant qui vit une surdité va babiller quand même. Donc, l'apprentissage de la parole commence par le babillement et va arrêter de babiller quand il n'y a pas de résultat au bout de la ligne. Et c'est finalement mon père qui est venu me rencontrer pour me dire, bien, écoute, je pense que Fanny avait un problème, il faudrait vérifier un petit peu au niveau de son audition. Et là, on a commencé toutes sortes de démarches. J'ai cassé des cuillères de bois à frapper sur des chaudrons pour vérifier si elle entendait, pour finalement se rendre compte qu'effectivement, elle avait une surdité. Et là, on est allé nécessairement consulter. Et là, on n'est pas conscient, nous, qu'en surdité, c'est hyper complexe. Les niveaux de surdité sont différents. Il y a une ventilation du malentendant jusqu'aux eaux profondes. On ne sait pas où se classe notre fille dans tout ça. On se retrouve, je ne veux pas aller trop loin dans la discussion, mais on se retrouve avec un appareil auditif. Genre 1821. Là,
assez massif, là,
massif,
selon votre
avec,
mime.
Et là, on est là en se disant, bon, on vient de régler le problème. Elle a son appareil, elle va comprendre comme tout le monde. C'était tout à fait une erreur aussi de penser ça. On s'est donc retrouvé dans une dynamique de réadaptation. Puis même, je dirais, de réflexion familiale sur ça sera quoi les choix qu'on fera pour l'avenir de notre enfant, puis aussi l'avenir de notre famille, là,
c'est
tout simplement.
Yves, à ce moment-là, oui, il y a des frustrations, mais assez rapidement, Linda et vous vous relevez les manches et vous passez à l'action.
Ben,
qu'est-ce que vous faites?
En fait, quand vous avez un enfant qui est différent, nécessairement, on vit un deuil de l'enfant parfait auquel on rêvait hein, pendant la grossesse, etc. Et on se retrouve avec un enfant qui vit avec une problématique auditive, donc une problématique importante de communication. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ben, nous... Rapidement, on est rentré dans la gamme de services. On a rencontré un psychologue qui, après la première rencontre, nous a dit, écoutez, vous n'avez vraiment pas besoin de venir me voir. Vous avez déjà franchi beaucoup d'étapes. Et on a rapidement créé un groupe de parents par chez nous qui s'est appelé l'AKEPA plus tard, l'Association du Québec pour enfants avec problèmes auditifs. Et grâce à ce groupe d'entraide-là, grâce aussi à l'investissement qu'on faisait, ça nous a aidé à passer à travers la période un peu plus complexe là, qui est le diagnostic. Au fond.
Mm-hmm. 15 ans plus tard, le septième arrive.
Oui.
C'est Jérôme.
Oui.
Et là, ça se passe complètement différemment.
Écoutez, le septième enfant, tous mes enfants ont passé un potentiel évoqué à la naissance. Et rapidement, on a pris conscience.
Qui est un
potentiel évoqué, c'est qu'on vérifie l'audition de l'enfant de façon neurologique ou de façon auditive avec des appareils 3-4 jours après la naissance de l'enfant. D'ailleurs, ma fille vient d'accoucher, son fils va passer le potentiel évoqué aussi.
OK.
Et quelque part, on prend conscience tout de suite de la capacité auditive de l'enfant et on a fait un constat que Jérôme avait aussi une surdité profonde aussi. La plus contente, c'était Fanny quand même, sa grande sœur qui est sourde. Nous, c'est un peu émotif parce qu'on retombait quand même dans une dynamique. On voyait le cheminement qu'on avait fait avec Fanny, puis on disait « on recommence ». Mais on recommence avec des outils, avec un réseau, avec une capacité de familiale. On est quand même beaucoup dans cette famille-là.
Oui, mais aussi avec des services, à ce moment-là, 15 ans plus tard, qui sont différents.
Tout à fait. À l'époque de Fanny, il n'y a aucun service, là. Il n'y a rien qui est développé, aucun. Excusez-moi, il y a un service de base. On a une orthophoniste qui nous rencontre, orthophoniste spécialisée en oralisme, c'est-à-dire la lecture labiale, etc., est très peu encline à aller vers le langage des signes, etc. On a un centre de réadaptation très peu financé et on a l'ensemble de nos services, les équipes multi, à Québec. On se déplace fréquemment, perte de temps de travail, etc., etc. D'ailleurs, anecdote, j'ai dû changer d'emploi pour avoir plus de flexibilité aussi à ce niveau-là. Et avec Jérôme, on avait aussi beaucoup travaillé, Madame Marianne, on avait beaucoup travaillé aussi du côté, on s'est inclus dans les conseils d'administration du centre de réadaptation. On a été un petit peu partout dans toute la dynamique du gouvernement en santé et services sociaux pour finalement, pas nous autres tout seuls, mais assez influencés, je crois, pour que les services deviennent régionalisés. Et Jérôme, à sa naissance, lui, a eu accès à tous les services.
Donc, vous évitiez la route à faire vers le CHU Sainte-Justine, vous qui étiez à Trois-Rivières.
Mais c'était pas Sainte-Justine, c'était
à Québec, j'imagine.
C'est
voilà.
Ça, c'est ça.
Quelque chose de plus près de la maison. Ouais. On comprend assez rapidement, en vous parlant, Yves Blanchette, que vous et votre épouse, Linda, avez relevé vos manches après le premier choc, la naissance de Fanny, et ce désir de s'impliquer, de s'engager dans l'éducation de l'enfant, même avec une différence. Et ça fait partie du rôle du parent aussi d'intégrer son enfant différent. Ouais. On continue cette discussion. Yves Blanchette, on apprenait début décembre que le gouvernement fédéral voulait rendre la LSQ, la langue des signes québécoise, comme langue officielle, troisième langue officielle ici au Canada. Vous avez reçu cette nouvelle-là. Comment?
Ben, on a reçu cette nouvelle-là comme une excellente nouvelle. Parce que ça veut dire que pour nos enfants, pour les gens qui parlent le langage des signes du Québec, et ça va être en ASL aussi du côté anglophone, ça permettra l'accès à des services, en tout cas au niveau du gouvernement fédéral, si ça s'applique réellement en langage des signes. Si la langue devient officielle, ça sera officiellement des services qui devront être offerts aussi. Donc, ça crée de l'emploi aussi pour nos interprètes, etc., etc. Et ça crée surtout de l'accessibilité.
Ouais.
On souhaite que le gouvernement du Québec poursuive dans le même axe en reconnaissant la langue des signes du Québec comme troisième langue officielle du Québec aussi. C'est un peu plus complexe à cause du contexte politique, on s'entend. C'est pas simple.
Est-ce que la langue des signes québécoise, la LSQ, est beaucoup adoptée chez les jeunes sourds. Je parle des adolescents, cette nouvelle communauté, ces citoyens de demain qui sont une communauté peut-être plus ouverte. Comment ils communiquent entre eux, avec aussi tout l'apport de la technologie qui change vraiment la donne? Est-ce que c'est encore beaucoup utilisé ou un peu moins?
Ce que je vais vous parler à partir de mon vécu, puis à partir, j'ai eu une formation en histoire, on parlait un petit peu d'histoire. Mmh. À l'époque, les personnes sourdes, femmes comme hommes, se retrouveraient concentrées à Montréal et à Québec. Et on refusait à cette époque-là le langage des signes. Il s'est tout de même développé entre ces gens-là. Et ça l'a créé une communauté forte en réaction. Okay? Plus tard, est arrivé entre autres la KEPA, les parents sont arrivés, et on a commencé à demander l'inclusion de nos enfants dans les écoles de quartier. Okay? Mm-hmm. Donc, de la communauté sourde de notre époque très forte, liée par des liens réactifs au fait qu'on ne voulait pas. On a maintenant des enfants sourds. Je vais prendre Jérôme comme exemple, qui est mon fils de 16 ans, qui parle en langage des signes, dont la majorité des amis apprennent des bribes de langage des signes, mais qui fait aussi des efforts pour faire de la lecture labiale, pour faire de la lecture. Et vous l'avez dit, la technologie, le message texte, les MSN de ce monde-là. Puis je me souviens plus au début, je me souviens que ma fille Fanny, à l'époque, venait me voir à la maison, me disait « il m'a écrit ça ». Je lui disais « non, on répond pas à ça okay? ». C'est une farce, là, mais c'était des choses pas trop belles. Oui. Mais elle a appris son français écrit grâce à ça. Mm-hmm. Le bilinguisme, c'est un peu ça. c'est le langage des signes comme parole visuelle, mais c'est aussi l'apprentissage de l'écriture du français.
Oui.
Alors ça, c'est intéressant et ça donne suffisamment d'outils à nos enfants sourds pour pouvoir s'inclure et s'intégrer un peu partout, oui, avec la bonne volonté de tout le monde.
Oui. La technologie, ça a quelque chose d'assez exceptionnel tout pour les gens qui vivent avec une sourdité.
Oui, maintenant, le service relais vidéo. Écoutez, ma fille Fanny, Chloé pourrait vous en parler tantôt, elle écrivait parfois à sa sœur en disant « Peux-tu me commander une pizza?
Mm-hmm.
À la maison, je veux manger de la pizza. » Elle ne pouvait pas le faire à partir des outils qu'elle avait. Maintenant, avec le service relais vidéo, elle parle directement à un interprète qui parle directement à commander la pizza. Je vous dirais qu'on a même rencontré les équipes de la RAMQ en disant « Toutes les vieilles outils sont un peu obsolètes, ATS, appareil téléscripteur, mm-hmm, etc. Pourquoi on ne donnerait pas plutôt aux personnes sourdes ce type d'outils ou l'accès à la communication via ces petits outils-là? On économiserait beaucoup et quelque part, c'est ce qui est en cours actuellement et le reste des outils s'en vont. » Tranquillement. Un réveil matin qui flash, vous avez ça avec ça, excusez-moi, qui clignote. Mm-hmm. On a ça avec ça. On a tous les outils nécessaires dans ce petit bidule-là. Et la communication, elle est soit visuelle, FaceTime ou n'importe quel logiciel qui nous permet ça, et ou écrite. Et là, les personnes sourdes s'y retrouvent très facilement.
Oui. Vous m'avez dit quelque chose, Yves Blanchette, lorsque l'on s'est parlé au téléphone pour la première fois, qui m'a bien marqué. Vous m'avez dit, nous, la discrimination, on ne connaît pas ça. J'ai élevé les enfants de l'ouverture, de l'acceptation de la différence. Pour vous, c'était extrêmement important d'élever vos enfants dans ces valeurs-là.
Tout à fait. Si on a des valeurs d'inclusion à la communauté, la différence ne ferait que bonifier la communauté et donc pas cibler la différence. Et là, discriminer, c'est d'enlever des droits, OK? Mm-hmm. De les enlever des droits. Stigmatiser, c'est de les placer dans un groupe qui est à l'écart de la communauté.
Mm-hmm.
Alors, nous, on voulait éviter ça. Alors, on a élevé nos enfants dans la plus grande inclusion possible. Ce qui veut dire que c'est pas toujours simple parce que l'inclusion demande beaucoup d'efforts.
Oui, beaucoup d'adaptation, oui.
Et voyez, mon fils Jérôme, actuellement, bon, on est là pour parler de portrait de famille, mais Jérôme, mais Fanny, elle avait fait ses classes à l'époque, mais Jérôme avait quand même... tout ça de construit autour de lui, réussit très bien par tout ce qui passe, oui, est autonome, travaille, etc. C'est ce qu'on voulait pour nos enfants.
Oui.
On veut que la différence soit inclusive dans la diversité de la communauté.
Oui. Il y avait quand même cet effort à faire de votre part, celle de Linda, du pont. C'est-à-dire le pont vers la communauté sourde, vers ce monde-là qui nous est un peu étranger, nous entendant, et aussi l'ouverture de les faire entrer dans ce monde-là. Donc, c'est un pont entre les deux mondes.
Exactement, et c'est pour ça que rapidement, on s'est inclus dans la communauté sourde pour que nos enfants sourds aient des exemples de personnes sourdes adultes, et puis qu'il y a un apprentissage du langage qui se passe aussi. On a plein d'amis sourds, on a plein d'amis qui sont des interprètes aussi, mais on a aussi conservé le plus possible d'amis du quartier, et les frères et les sœurs, tantôt on va arriver là avec Chloé, ont été vraiment extraordinaires dans l'intégration de Fanny et de Jérôme, mmh, aussi. Fanny a été chef d'équipe chez McDonald's, sourde profonde, mais c'est sa sœur Chloé qui l'a intégrée au départ,
oui,
chez McDonald's.
C'était une façon de transmettre à vos enfants ce qui est cher pour vous,
oui,
Yves Blanchette, l'entraide.
L'entraide, bien, tout à fait. Écoutez, moi, je dis à tous les parents d'enfants sourds qu'on n'est pas seul. On a des grandes associations, on est nombreux et qu'on a besoin de s'appuyer les uns sur les autres, ne serait-ce que pour pouvoir s'exprimer entre nous de ce que nous, on vit qui est différent des autres. Hein, la communication dans la maison quand un enfant sourd, vous, pour vous, c'est rien, mais moi, me fait taper sur l'épaule, je ne suis plus capable. Comprenez-vous? C'est des trucs comme ça. Donc, d'échanger ça entre parents, d'échanger nos outils, d'échanger nos réussites. L'entraide, ce n'est pas que l'enfant sourd, c'est la famille au complet qui est incluse. Et il y a beaucoup de familles dans la province.
Hein? Ouais.
Alors, c'est important que ces gens-là se rencontrent dans des climats, dans des lieux, dans des endroits qui sont beaucoup plus des endroits de répit, hein? Comme la fin de semaine familiale de la Kepo. Je vous en profite,
oui,
pour vendre ça.
Oui, certainement. Écoutez. Vous en êtes quand même le président du CA.
Oui, c'est ça. Bien, écoutez, oui, et quelque part, nous, on trouve important de se sortir parfois, ce que vous avez appelé tantôt, le travail de fond d'intégration ou d'inclusion, de se sortir de là et de se retrouver avec sa gang.
Oui.
Et de s'exprimer, de s'aider. Alors, l'entraide, là... c'est pour moi encore le meilleur et le principal des outils pour les familles.
Oui.
L'entraide, je veux juste compléter, l'entraide nous permet aussi, par des exemples de réussite, de démontrer à d'autres parents que oui, il y a plusieurs chemins, il y a une diversité, oui, de chemins qui peuvent être pris.
Oui. Et que le parent reste toujours l'expert de son enfant. Vous avez parlé tout à l'heure avec Sylvain Letcher du côté médical qui prend parfois beaucoup trop de place et les experts en santé qui veulent bien sûr le bien de notre enfant, mais parfois qui nous dévient un peu.
En fait, on surresponsabilise le parent parce que, écoutez, juste au niveau scolaire, par exemple, parce que mon enfant est sourd, on me dit, vous allez faire plus de devoirs à la maison avec votre enfant. Bien non, je suis un parent et mon enfant fera 15 minutes comme les autres de devoirs si c'est ça qui est la norme. Et quelque part, je vais le laisser jouer avec ses amis dans la cour aussi. On s'entend.
Et le laisser jouer avec ses frères et sœurs.
Tout à fait.
Parce que la fratrie, c'est important, notamment chez vous, où il y a 7 enfants et Blanchette. Et on a compris que l'enfant, le frère et la sœur différents peuvent amener à l'enfant qui a un développement plus régulier dans votre famille et vice-versa. Merci beaucoup, Yves Blanchette.
Un grand plaisir.
Si comme moi, vous avez été touché par cette histoire, je vous rappelle que l'émission Portrait de famille est présentée sur nos ondes le lundi à midi. Cela étant dit, peut-être que le lundi à midi, vous n'êtes pas disponible, mais ce n'est pas grave parce que via notre site internet www.vusezvoix.com, puisque je vous rappelle que Canal M est la radio de Vusezvoix, vous pouvez ensuite réentendre n'importe quelle émission de votre choix. Alors, c'est quand même intéressant. Et puis, vous pouvez aussi nous envoyer vos commentaires. On aime beaucoup vous lire et vous répondre. Et comptez sur nous pour le faire avec beaucoup de plaisir. Voilà, c'était Clotilde Seil qui vous présentait Le National sur les ondes de Canal M. Je vous souhaite une belle fin de vendredi. Et puis, tiens, pendant que j'y suis, une belle fin de semaine. Au revoir.